VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du mercredi 6 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Mise en garde de l'Union européenne contre la détérioration de la situation politique et sécuritaire au Cameroun.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, reçu par le pape François, réaffirme sa détermination à mettre en œuvre l'accord de paix de Khartoum.
Au Sénégal, le président Macky Sall tend la main à l'opposition pour un dialogue constructif après la confirmation de sa réélection par le Conseil constitutionnel.
Au Niger, lancement hier d'une campagne de vaccination contre la méningite qui fait plusieurs centaines de morts chaque année.
Ici à Washington, le président Donald Trump a de nouveau fustigé les nouvelles enquêtes des parlementaires démocrates contre lui et son administration.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'Union européenne a mis en garde hier contre une détérioration de la situation politique et sécuritaire au Cameroun après l'arrestation du principal opposant Maurice Kamto et de plusieurs de ses partisans. Le point avec Ekia Badou.
Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, a dit dans un communiqué que l'arrestation et la détention prolongée de plusieurs dirigeants du MRC, un parti de l'opposition dont son leader Maurice Kamto, ainsi que l'ouverture de procédures disproportionnées à leur encontre accroît le malaise politique au Cameroun. Elle ajoute que l'état de droit demande une justice équitable et la libération des détenus à l'encontre desquels des preuves probantes ne peuvent être présentées. Maurice Kamto, principal opposant, a été arrêté ainsi qu'environ 150 personnes. À la suite d'une manifestation fin janvier. Il est arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre, remportée par le président Paul Biya. Les détenus ont été présentés à la mi-février devant le tribunal militaire de Yaoundé. Une information judiciaire pour hostilité contre la patrie et insurrection a été ouverte à leur encontre.
Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, s'est rendu hier auprès du pape François et il a réaffirmé son engagement à mettre en pratique l'accord de paix de Khartoum malgré le rejet du nouveau gouvernement par 5 groupes armés. Nous cherchons la paix et dans l'accord, il y a des mécanismes qui vont permettre de continuer à travailler, a assuré M. Touadéra à quelques journalistes lors d'une visite à la communauté catholique de Sant'Egidio, engagée dans la médiation, après son entrevue avec le pape et avec les responsables de la diplomatie vaticane.
En République démocratique du Congo, les autorités administratives ont procédé hier à une restructuration de l'équipe gouvernementale, écartant des ministres élus députés à l'issue des législatives du 30 décembre 2018, alors que le pays attend la mise en place d'un nouveau gouvernement, selon un document parvenu à l'AFP. Parmi ces ministres, Lambert Mende, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, son portefeuille a été fusionné avec le ministère des Droits humains, tenu par Marie-Ange Mouchobekwa. Le ministre de la Justice, Alexis Ntamboué Mwamba, va s'occuper en même temps du ministère des Affaires étrangères.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a, sans surprise, proclamé hier la réélection au premier tour du président Macky Sall. Ce dernier a aussitôt annoncé tendre la main à l'opposition pour un dialogue constructif dès le début de son second mandat le 2 avril. Ses quatre adversaires à la présidentielle du 24 février avaient annoncé la semaine dernière rejeter les résultats provisoires, mais renoncé à les contester devant le Conseil constitutionnel. Nous reviendrons sur le discours de M. Sall en seconde partie de cette édition avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit dans un rapport au Conseil de sécurité voir des progrès dans l'application de l'accord de paix de 2015 au Mali, où les attaques terroristes demeurent toutefois conséquentes. M. Guterres a déclaré, selon un diplomate qui a requis l'anonymat, c'est le verre, à moitié plein ou à moitié vide. En tout état de cause, cela permet d'éloigner la perspective de nouvelles sanctions ou d'une prochaine réduction de la mission onusienne sous l'impulsion des États-Unis, alors que mars avait été donné comme échéance à Bamako pour engranger des résultats.
Le Niger a lancé hier une campagne de vaccination contre la méningite. Cette épidémie récurrente dans ce pays fait plusieurs centaines de morts chaque année. Le point avec Morgane Guériec.
La campagne de vaccination a démarré hier à Saga, à la périphérie de Niamey. Idi Iliasu, ministre nigérien de la Santé, a assuré que 6 millions d'enfants âgés de 1 à 7 ans vont être vaccinés du 5 au 11 mars. Toutes les 8 régions du pays sont concernées, a déclaré le ministre, qui invite les parents à sortir massivement pour faire vacciner leurs enfants. Cette campagne, qui va coûter quelque 2 milliards de francs CFA, est essentiellement financée par l'Organisation mondiale de la santé, Gavi Alliance, le Rotary International et l'UNICEF. Le Niger a déjà connu plusieurs épidémies de méningite, notamment en 2017 où la maladie avait tué près de 200 personnes, à majorité des enfants. Au Burkina Faso voisin, une épidémie de méningite sévit depuis janvier dans la zone de Tapoa, dans l'Est.
En Algérie, plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté à nouveau à Alger et dans plusieurs villes du pays contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Ce dernier a promis de ne pas aller au bout de son éventuel nouveau mandat, mais cela n'a pas calmé la colère des jeunes. Des détails avec Raïssa Girondin.
« Hé, Bouteflika, il n'y aura pas de cinquième mandat », ont chanté les étudiants toute la journée dans le centre d'Alger, applaudis par des passants et soutenus à coups de klaxon par les automobilistes. La police, déployée en force, les a laissés faire devant la Grande Poste. Dans la capitale où les manifestations interdites depuis 2001 sont devenues presque quotidiennes, c'est du jamais vu sous le long règne du président Abdelaziz Bouteflika. Des cortèges de plusieurs milliers d'étudiants ont également défilé à Oran, Constantine et Annaba, mais aussi dans les principale ville de la Kabylie. Ces manifestations ont été déclenchées par l'annonce de la volonté du président Bouteflika de briguer un cinquième mandat lors de la présidentielle du 18 avril. Le président, âgé de 82 ans et au pouvoir depuis 20 ans, a promis, s'il est réélu, d'écourter son mandat. Monsieur Bouteflika, affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, se trouve actuellement en Suisse pour une visite médicale dite de routine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a de nouveau fustigé l'attitude des parlementaires démocrates qui ont ouvert une vaste enquête sur lui et son administration pour déterminer, entre autres, des tentatives d'obstruction de la justice. Pour M. Trump, ses adversaires se lancent dans une grande croisade désespérée à la recherche d'un crime. Ces derniers ont sommé lundi 81 personnalités et organisations liées à sa campagne électorale en 2016 de livrer des documents. Selon le président américain, ces parlementaires démocrates sont devenus, et je cite, « fous ». Dans une série de tweets, M. Trump les a accusés de mener le plus grand abus de pouvoir de l'histoire des États-Unis.
Dans l'est de l'Afghanistan, une attaque suicide suivie d'échanges de tirs a secoué tôt ce mercredi la ville de Jalalabad, a annoncé un responsable de la province de Nangarhar. L'attaque semblait viser une société privée proche de l'aéroport. Deux kamikazes ont fait exploser leur veste et deux autres ont été abattus par les forces de sécurité, a déclaré à l'AFP un porte-parole provincial, ajoutant que les forces spéciales afghanes ont été déployées sur les lieux. Ce nouvel attentat survient alors que les États-Unis et les talibans mènent depuis la semaine dernière des discussions de paix à Doha pour tenter de mettre un terme au conflit en cours en Afghanistan depuis près de 18 ans.
Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim, a dit hier être prêt à soutenir un éventuel appel syndical à la grève. Il a aussi prévenu que la pression ne fait que commencer sur le pouvoir du président Nicolas Maduro, qui a répliqué en convoquant une manifestation le même jour que l'opposition, c'est-à-dire samedi 9 mars. Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays, a entamé des consultations en rencontrant les syndicats de fonctionnaires dans la perspective d'un gouvernement de transition.
Au Nicaragua, le gouvernement du président Daniel Ortega et l'opposition ont annoncé hier s'être mis d'accord sur une feuille de route pour des négociations destinées à sortir de la grave crise politique que traverse le pays depuis avril dernier. La feuille de route est approuvée, a annoncé le nonce apostolique Valdemar Stanislav Sommertag, témoin des négociations, en lisant une déclaration conjointe en 16 points approuvée par le gouvernement et l'Alliance civique pour la justice et la démocratie au terme de 5 jours de pourparlers. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Togo a bénéficié de 15 millions de dollars des Émirats Arabes Unis pour le financement partiel de sa première centrale solaire de 30 mégawatts. C'est l'une des 4 centrales solaires que le pays veut construire d'ici 2025 pour booster l'accès des populations rurales à l'énergie. Ecofin rapporte que ces projets s'inscrivent également dans l'objectif togolais d'atteindre une part de 50% de renouvelables dans le mix énergétique en 2030. Le FIDA a débloqué hier 11,8 millions de dollars pour le projet de développement des chaînes de valeur agricole en Sierra Leone. Ces fonds seront investis dans la mécanisation agricole, la gestion de l'eau et l'irrigation pour accroître la production du riz, de légumes, d'huile de palme et de cacao et réhabiliter les routes de desserte et les entrepôts de séchage et de stockage. Le projet veut améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et rehausser les revenus de près de 34 000 ménages ruraux. Pour finir, en 2019-2020, la demande mondiale d'huile de palme pourrait ralentir pour la première fois depuis 20 ans. Cela est dû au ralentissement des achats de l'Inde, l'Union européenne et la Chine qui ont totalisé 46% des importations en 2018. En Inde, le soja qui sert d'alternative à l'huile de palme devrait conduire à des importations similaires à ceux de 2018. L'Union européenne ne veut pas prendre de risques car Bruxelles pourrait imposer des restrictions sur l'huile de palme à cause de préoccupations environnementales.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite des huitièmes de finale retour en Ligue des Champions ce soir.
Oui, privé de cas depuis 2 ans, le PSG compte bien corriger cette anomalie face aux Red Devils. Les Parisiens abordent le match retour porté par leur victoire 2-0 à Old Trafford. Manchester United compte 9 blessés et pas des moindres. Lingard, Anthony Martial, Alexis Sanchez ou encore Nemanja Matic qui ont tous joué à l'aller. Des absences auxquelles s'ajoute celle de son joueur clé Paul Pogba suspendu. En face, même sans Neymar en convalescence, les signaux sont au vert pour le PSG qui surfe sur une série de 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. L'autre affiche de ce soir verra Porto tenter de renverser l'AS Rome après sa défaite 2-1 au stade olympique.
Le sélectionneur de Madagascar prolongé à la tête des Baréas.
Oui, la fédération a prolongé le contrat de Nicolas Dupuis jusqu'en juin, soit à la fin de la grande messe du foot continental. Le technicien a dévoilé un groupe de 20 joueurs parmi lesquels Jérémy Morel. Le défenseur de Lyon, déjà apparu lors du dernier regroupement, fait désormais partie intégrante des Baréas. Déjà qualifié pour la CAN 2019, Madagascar entame la préparation pour la phase finale de la compétition, à laquelle il participera pour la première fois. Mais bien avant, les Malgaches affronteront les Lions sénégalais le 23 mars à Thiès, lors de la dernière journée des éliminatoires.
Le Togo enregistre le retour de Romao.
Oui, la liste des 22 joueurs publiée par le sélectionneur Claude Leroy est marquée par le grand retour du Rémois Alexis Romao, plus appelé depuis la CAN 2017. À l'instar d'Emmanuel Adebayo, Flod Haïté et Mathieu Dosevi, les autres têtes d'affiche seront là aussi, tout comme les défenseurs Djéné Dakonam et Hakim Urosama. De retour de suspension, à noter aussi la première convocation du jeune gardien Idrissa Ogojo, qui évolue au DC Motoma Pembe en RDC. Actuellement troisième de leur groupe, les éperviers doivent s'imposer au Bénin le 24 mars, lors de la dernière journée s'ils souhaitent se qualifier pour la phase finale.
La CAF a sanctionné l'arbitre du match Berkane Raja en Coupe CAF.
Coupable de plusieurs erreurs grossières lors du choc marocain en Coupe CAF dimanche, l'arbitre camerounais Antoine-Max Depadou Efa Essouma a été suspendu pour 1 an par la commission des arbitres de la CAF. Avec cette décision, l'instance panafricaine de football valide ainsi la lettre de protestation du Raja Casablanca qui avait écrit à la CAF pour dénoncer un massacre arbitral. En revanche, et contrairement aux espoirs des Rajaouis, la CAF ne semble pas envisager de faire rejouer le match. Basket, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Indiana et Chicago 105 à 96, Philadelphie et Orlando 114 à 106, Houston et Toronto 107 à 95, Memphis et Portland 120 à 111, Minnesota et Oklahoma City 131 à 120.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, le président Macky Sall a tenu son premier discours post-électoral après la confirmation de sa victoire au scrutin du 24 février dernier par le Conseil constitutionnel. Une occasion qu'il a saisie pour saluer ce qu'il a appelé la maturité de la démocratie sénégalaise, mais aussi et surtout lancer un appel à l'unité et au dialogue, nous dit notre correspondant à Dakar, Sélina Abagay.
C'est sous les applaudissements nourris de ses alliés que le président Macky Sall a fait son entrée dans la salle des banquets du palais présidentiel. Face à la presse et face aux Sénégalais qui le regardaient en direct à la télévision nationale, le président Macky Sall a lancé un appel au dialogue destiné à toutes les composantes de la vie publique et politique sénégalaise.
Je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation. Je ferai des propositions dans ce sens après ma prestation de serment le 2 avril 2019. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, dialogue auquel mes prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pourraient apporter leur contribution.
Avant cela, le président réélu Macky Sall a commencé par saluer la maturité démocratique du Sénégal.
Nous avons encore honoré de belle manière notre héritage démocratique en nous rendant massivement aux urnes dans le calme et la sérénité. Ainsi, les observateurs nationaux et internationaux ont été unanimes à saluer la bonne organisation des opérations électorales et à attester que le scrutin a été libre et transparent. C'est là une identité remarquable des démocraties majeures et apaisées comme la nôtre.
Macky Sall a par ailleurs affirmé que sa réélection est le symbole de la confiance que les Sénégalais lui accordent, un motif pour lui de faire beaucoup mieux que lors de son premier mandat.
Je remercie chaleureusement les électeurs qui m'ont renouvelé leur confiance. Ce nouveau contrat de confiance dont j'apprécie le sens et la portée me motive à redoubler d'efforts, à faire encore plus et mieux. Au demeurant, chaque voix qui s'est exprimée le 24 février, qu'elle soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, mérite d'être entendue et respectée parce qu'elle porte le souffle de la liberté qui fait vivre la démocratie. Je salue tous les autres candidats à l'élection présidentielle.
Macky Sall a tenu un discours résolument tourné vers l'avenir avec des promesses de mieux-être et d'une gouvernance inclusive avec une volonté affichée de travailler avec toutes les couches de la population pour l'émergence du Sénégal. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Retour sur le Bénin et les législatives du 28 avril. À moins d'un changement de dernière minute, deux partis proches du pouvoir sont les seuls autorisés à participer à ce scrutin. C'est une décision de la CENA, la Commission électorale nationale autonome, qui a reçu 7 dossiers de candidature. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
La surprise était totale mardi à Cotonou à la fin de la déclaration de Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Aucun parti de l'opposition n'a été retenu. Pour Joël Alagbé du PRD, l'un des partis dont le dossier n'a pas été validé, il n'est pas question que les élections aient lieu sans son parti.
Nous n'avons pas encore eu la notification de la Sénat et nous ne nous inquiétons même pas. Seulement tout ce que je vais dire, que tous nos militants se calment, il n'y a pas d'élection sans le PRD. Le PRD ira aux élections, il n'y a pas de problème.
Seul le bloc républicain l'Union progressiste, tous deux proches de la mouvance, sont retenus pour les élections. Les autres peuvent déposer leur recours devant la Cour constitutionnelle afin d'être rétablis. L'Union sociale libérale se désole de ce coup porté à la démocratie béninoise, selon Gérard Gomez, porte-parole du parti.
Nous sommes désormais au Bénin, dans un cadre où les élections législatives sont prévues et ce sont deux partis créés par le président de la République qui vont, selon la Sénat, concourir à ces élections. En 83 sièges, qui seront partagées entre le Bloc républicain et l'Union progressiste. Mais le bureau national de l'USL se réunira très vite et prendra une position beaucoup plus officielle.
Dans le camp des mouvanciers, on se frotte les mains, mais avec un certain regret pour ceux dont les dossiers ont été rejetés.
Moi, j'ai un peu meurtri la mort de l'âme que ça arrive. Chacun aurait dû véritablement savoir que cette loi-là, il ne s'agit pas de faire comme par le passé. Il s'agit d'être rigoureux envers soi-même. C'est les irrégularités de fond qui ne pardonnent pas. Ce n'est pas la joie dans le cœur que j'accueille cette nouvelle. Je ne l'ai pas accueillie. J'aurais bien souhaité que tout le monde prenne part aux élections. La fête aurait été plus belle parce qu'il s'agit là d'une fête. Oh, je compatis vraiment.
Pendant ce temps, la commission de la CEDEAO poursuit sa mission. Elle dit avoir reçu la promesse des autorités béninoises d'organiser les élections sans anicroche. L'autre nouvelle est venue tard dans la soirée mardi. Patrick Stallon reçoit aujourd'hui toute la classe politique. Peut-être que de cette rencontre sortira enfin la fumée blanche pour des élections inclusives. De Cotonou, Ginette Fleur dans les pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À Lubumbashi, en République démocratique du Congo, les femmes ont marché hier au centre-ville pour dénoncer les viols qu'elles subissent et l'insécurité grandissante dans une région où 266 cas ont été enregistrés depuis le début de l'année. Compte rendu de notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Les femmes sont venues dans le centre-ville de Lubumbashi pour dénoncer les silences des hommes face aux viols qu'elles connaissent, en dépit des interpellations des autorités. Safi Thérèse est la porte-parole de manifestants.
Nous, femmes des organisations du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, étions venues dénoncer les viols, les tueries et autres traitements dégradants que subissent sans raison les femmes et filles de la province du Haut-Katanga par des hommes non autrement identifiés. Nous sommes cependant désolés de constater que cette situation ne fait que s'empirer et depuis janvier 2019, nous avons enregistré 266 cas de viols dans la province, dont 231 dans la ville de Lubumbashi, 13 dans la ville de Kasumbalesa, 9 cas dans la ville de Likasi et 13 autres dans les territoires de Kipushi.
La marche est interdite par le maire de la ville, Ghislain Loubaba, dans une lettre adressée aux femmes, une interdiction qu'elles ont bravée en marchant jusqu'au gouvernorat de province. Jeff Mbia est membre du code de concertation de la société civile.
C'est vrai qu'aujourd'hui, nous constatons que chaque cas de vol est accompagné de viols. Et ce sont des pratiques inhumaines. Et c'est déplorable, étant donné que même le maire de la ville aurait déjà interdit cette marche ou le dépôt des mémos, alors qu'il n'a pas qualité. Et même aussi, nous déplorons du fait que c'est le mois de la femme. Nous avons un ministère du genre et famille qui devait accompagner cette action visant à rappeler l'autorité ses obligations. Mais il est étonnant de constater que le ministre n'est même pas là. Et d'ailleurs, d'après nos informations, c'est elle qui aurait demandé au maire de commander cette marche, et pour nous c'est regrettable.
Selon les femmes, la plupart des hommes restent indifférents face à la violence faite contre elles. Marianne Niav, présidente de l'UNPC Katanga, au micro de VO Afrique.
Disons que ça nous fait mal de voir qu'il y a des hommes qui ne sont pas genrés. Nous avons des hommes qui nous accompagnent, mais ils sont moins nombreux. La plupart des hommes qui nous accompagnent, ce sont ceux qui comprennent même le sens où ils ont vécu cette situation, ou encore une de leurs a vécu cette situation de viol. Les hommes qui sont indifférents, c'est triste. Parce que ces hommes, lorsqu'ils naissent, ce sont les femmes qui leur mettent au monde. Ces hommes qui sont indifférents, ça nous fait mal de constater que c'est comme si ce dossier de viol ne concerne que les femmes. Et pourtant, ces femmes qui sont violées, ces filles qui sont violées, ces jeunes dames qui sont violées ont des membres de famille qui sont des hommes. Ça nous fait mal.
Narvel Mabila, Lubumbashi, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Zimbabwe, la flambée du prix du pain oblige les citoyens à rechercher des substituts dans un contexte de pénuries alimentaires. Le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa dit qu'il travaille pour rendre le pain abordable. Un reportage de Columbus Mavunga à Harare, repris ici par Lionel Gahima.
Au Zimbabwe, une simple baguette de pain coûte au moins 2 dollars, voire plus, ce qui le rend inaccessible aux personnes démunies. Cela n'empêche pas les Zimbabwéens de savourer leur thé dans la pure tradition britannique, mais sans pain bien sûr. Gibson Nema a 63 ans.
Le pain est maintenant trop cher. Parfois, nous prenons de la bouillie, des patates douces ou des légumes verts. Si nous pouvons avoir du pain une fois par semaine, ça va. On s'en passe car c'est cher. Si le gouvernement faisait baisser le prix du pain et de la farine, ce serait bien.
Du coup, les ventes de pommes de terre et autres substituts sont en plein essor. Alwin Mutero est un vendeur de pain.
Les gens achetaient beaucoup de pain, mais ces jours-ci, ils n'en achètent plus. Regardez les étagères. Nous vendions le pain à environ 1 dollar. Maintenant, il coûte près de 2 dollars et demi et les gens n'ont pas les moyens.
Le ministre de l'Industrie, Mangali Sondlovu, s'est dit conscient du problème.
Nous travaillons avec les boulangeries sur la disponibilité du pain et le prix. Il est possible d'avoir un pain à 100% zimbabwéen. Nous tenons beaucoup à ce que le pain soit disponible à des prix abordables.
Le secteur agricole bat de l'aile depuis 2000 suite à la décision du gouvernement d'exproprier les fermiers blancs pour donner leurs terres à des exploitants noirs moins expérimentés. Ben Gelpin est membre de l'Union des fermiers commerciaux du Zimbabwe.
La réforme agraire a eu un impact sur la production de blé. Il est tombé à un niveau très bas à un moment donné. Les agriculteurs ont besoin d'un prix décent. Les meuniers doivent couvrir leurs frais et les entrepreneurs s'approvisionner à des prix abordables.
En attendant une solution à cette situation, les Zimbabwéens devront continuer avec des solutions de rechange comme les citrouilles et autres patates douces à la place de leur pain quotidien.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.